En cette rentrée automnale, dont les couleurs virent du brun au vert de gris, ne nous laissons pas déprimer. D'abord parce que les analogies avec les sinistres années 30 ne sont que des rapprochements, et dit le proverbe « comparaison n'est pas raison ». Ensuite, parce que si l'histoire se répète, la deuxième fois ce n'est plus une tragédie mais une farce, et de fait, l'autoproclamé Jupiter qui s'assoit sur les élections avec la conviction que ça va passer crème tient plus du bouffon que du chef d'État. Et enfin, parce que l'art nous sauve, et c'est d'art que nous allons encore parler tout au long de ces buissonnières de septembre 2024.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am the voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. L'écroulement des empires n'est jamais un dîner de gala. Mais ce sont des périodes fichtrement passionnantes, où le vent de l'histoire arrache les masques, où se défont des certitudes enracinées dans la civilisation occidentale, dont celle de l'exceptionnalité humaine. Ce bipède prétentieux qui s'arrogeait toutes les supériorités est bien obligé de reconnaître à l'heure du dérèglement climatique que sa principale supériorité est l'aveuglement. « Je suis le roi de la jungle » hurlait-il en se martelant les pectoraux jusqu'à ce que l'éléphant l'envoie d'un revers de trompe boulé dans le marigot. Et une fois écarté du paysage l'encombrant personnage, d'autres réalités se révèlent. Par exemple, que ce que l'humain d'ici nomme « environnement » est en lui. Que son espèce n'est pas au-dessus d'une supposée nature, mais qu'elle lui appartient. Cette réalité n'avait pas été oubliée partout. D'autres peuples en avaient conservé la mémoire et la pratique. C'est ce que raconte Philippe d'Escola à propos de son séjour chez les Achoirs, des Amérindiens qui vivent dans la jungle amazonienne. Je vous en lis un extrait. En écoutant l'interprétation de leurs rêves et en prêtant attention à leurs incantations magiques, je me rendais compte que les Achoirs se représentaient les plantes et les animaux comme des partenaires sociaux, comme des interlocuteurs, comme des personnes. À vrai dire, une petite analyse linguistique avait déjà attiré mon attention sur ce point. Il y a en effet un terme Achoir, A-int, que l'on peut traduire par personne, mais qui ne se réduit pas aux humains, car il inclut l'ensemble des êtres avec lesquels il est possible de communiquer par l'âme, si je puis dire. Cette découverte venait modifier complètement le cours de mes recherches. Elle témoignait du fait que les Achoirs n'étaient pas, comme je l'avais conçu au départ avec beaucoup d'autres, une société parachutée dans un environnement auquel elle devait s'adapter. Ils formaient plutôt un collectif d'humains entretenant des rapports avec des collectifs non humains perçus comme étant de même nature qu'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire pour autant que les plantes et les animaux étaient protégés, les personnes non humaines étaient chassées, pour ce qui concerne les animaux, ou mangées, pour les plantes, mais on les considérait comme étant ontologiquement semblables aux humains. Les réflexions de cet ethnologue, éthologue, philosophe et ceux de penseurs appartenant à ce qui forme aujourd'hui un courant de pensée, Vinciane Després, Baptiste Morisot, des philosophes féministes comme Émilie Hache, des biologistes comme Rachel Carson, des écrivains comme Jean-Christophe Bailly, bref, car il est impossible de les citer tous ici, j'oubliais l'écrivaine Claudie Hutzinger, quantité de personnes merveilleusement intelligentes, savantes et profondes m'ont donné envie de créer un nouveau stage que j'ai intitulé « Parler aux pétunias ». Le titre était un peu provocateur, mais provoquer à penser n'est pas péché. J'ai proposé aux stagiaires de s'immerger dans la chlorophylle, de parler avec les oiseaux, d'inventer de nouveaux langages pour converser avec les vivants non humains. À l'issue du stage, chacun a sélectionné parmi ses productions celles qu'il voudrait partager publiquement et nous nous sommes rendus non loin de la maison de l'écriture, dans la même rue René Cassin, sur le terrain des possibles. Le terrain des possibles ? Mais qu'est-ce donc ?
Bonjour. Donc je suis Laurence et je fais partie du collectif. Alors c'est pas le jardin des possibles. Mais c'est le terrain des possibles. C'est le terrain des possibles. Voilà, c'est mieux. Ce terrain des possibles, en fait, c'est un terrain qui a été laissé en friche pendant une cinquantaine d'années. Et puis, le propriétaire avait décidé qu'il voulait laisser ce terrain à des personnes qui en feraient un bon usage, selon lui, c'est-à-dire un peu de production, et puis préserver la biodiversité. Donc, il y a un petit groupe qui s'est créé à Bédarieux, qui a entendu parler de ce projet. Il y a déjà 2-3 années, je crois que c'est dans les tuyaux. Et un collectif s'est créé. L'année dernière, l'association Le Terrain des Possibles a vu le jour, officiellement. Et aujourd'hui, donc, on est 6 personnes dans la collégiale. Voilà, nos projets sur ce terrain, c'est... la préservation de la biodiversité, un peu de production, on aimerait faire un verger collectif, la pédagogie aussi, accueillir des enfants et aussi de l'ortithérapie, donc des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Enfin ça c'est les projets sur le présent, moyen et long terme. Donc voilà le terrain des possibles, vous êtes les bienvenus.
Merci Laurent. 4 rue René Cassin à Bédarieux, un jardin magnifique porté par un projet magnifique aussi, des gens merveilleux et qui nous accueillent à la sortie de ce stage. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous veniez lire, déclamer, chanter, roucouler vos textes. Qui est-ce qui veut commencer ? Tu veux commencer, Sophie ? Allez.
Ce matin, ma balade en solitaire me conduit dans ce vaste jardin qui borde l'Orbe. Jardin de tous les possibles, sans doute, car déjà je me sens emportée par les innombrables nuances du chant des oiseaux. J'avance au gré du vent qui souffle énergiquement aujourd'hui. Il fait voler tout sur son passage, tout ou presque. Des oiseaux peuple les branches profondes d'un grand arbre à quelques mètres de moi. Ils communiquent de façon animée. Ils sont nombreux, c'est sûr. Pourtant, je ne les vois pas. Je les devine. À l'oreille, on peut percevoir beaucoup. Un peu de concentration, on se laisse guider et le tour est joué. On dirait une réunion, un village. Se passe-t-il seulement le bâton ou la brindille de la parole ? Il semble que non. J'aimerais connaître leur inclinaison, deviner leurs pensées. Comprendre leur latin serait un plus. Ainsi pourrais-je aisément en traduire l'essentiel. Le vent fait venir à mes oreilles des sons de toutes parts. Je me dois d'être attentive si je veux détecter quelque forme logique de langage chez ces êtres mystérieux. Un brouhaha continu s'échappe de l'arbre. En bruit de fond, le chant des cigales voile mon écoute. Je fais le tri. Je compartimente les sons qui me viennent aux oreilles. Au loin, le bruit des voitures qui circulent sur une route. Ici, le vent m'envoie le chiffonnement des feuilles qu'il frotte. Là, à deux pas, ce sont les cigales qui ronronnent. Et là-haut, les oiseaux de l'arbre. Maintenant, je n'entends que, et chose étonnante, je commence à les comprendre. C'est l'heure du conseil de l'arbre village. Les oiseaux sont dissipés. Ils ont tous leurs mots à dire en même temps. Mes amis de l'arbre parlent le même dialecte. Tiens, le tumulte de tout à l'heure s'est évanoui. Chaque oiseau est retourné à ses occupations. Celui-là, moineau, est allé compter fleurettes à cette oiselle qui l'attire. Cet autre, mésange, accompagné par sa moitié, est allé construire un nid. Soudain, je me rends compte qu'à force de tendre l'oreille pour arriver à comprendre les oiseaux, j'en ai oublié l'essentiel. J'écoute, mais je n'entends plus. Je ne les entends plus. Je ne me sens plus bercée par leurs chants délicieux. Dans la peau du détective et de l'interprète, je me sens coupée de la réalité. Dans ma réalité, les oiseaux sont toujours à mes côtés. Ils contribuent à mon bonheur de chaque jour. Je les écoute le matin dans mon jardin, où je m'attarde volontiers pour profiter de leur musique enivrante. Je souris, je me sens bien avec les oiseaux. Et je souris encore à tout moment de la journée, quand leur pépiement est au rendez-vous pour me procurer du bien-être. Ils semblent m'interpeller et me dire « Profite de la vie, elle est bien plus simple que tu ne le crois !» Le chant de l'oiseau remplit mon cœur de joie. Le vol de l'oiseau m'inspire la liberté. Ah, si j'étais un oiseau! L'oiseau est enchanteur. L'oiseau est roi. C'était Sophie.
Je m'appelle Caroline et je vais vous lire le texte que j'ai écrit. La pluie arrive, youpi. Enfilons nos bottes et l'imperméable pour aller sentir. Sentir l'herbe mouillée, l'odeur du vert. Le soleil vient de pointer le bout de son nez. Enfilons notre chapeau et la robe légère pour découvrir l'odeur du jaune. Au cours de ces balades, où les odeurs et les couleurs se rejoignent, n'aurions-nous pas oublié d'y associer les sons et le goût? La fleur qui paraît sans couleur ni odeur, peut-être a-t-elle un goût? Allons lui rendre visite. Elle a ce petit goût qui nous nourrit. Et cette feuille, celle du figuier, a-t-elle un son? Allons l'écouter pour voir si le cœur vous en dit. Le vent va lui permettre d'émettre un bruit. Mon oreille l'entend. Le vent est le transporteur de ce son. Mais qui émet réellement cette tonalité? La feuille, le vent ou les deux à la fois? Tout autre chose? L'invisible peut-être. L'invisible aux yeux, au nez, aux oreilles, à mes doigts, à mes papilles gustatives. Il est discret celui-là. Il nous demande à prendre du temps, celui de vivre et d'aimer.
Claude, conversation avec un arbre. Je te regarde, fasciné par tes branches tortueuses, le lierre qui enroule autour de toi, les quelques taches de peinture aléatoire, tes feuilles, celles que tu portes encore sur tes branches dénudées. Devant moi, comme une sculpture peinte, une véritable œuvre d'art. Je vois, je devine que tu en as marre de vivre. En même temps, tes racines trouvent encore la force de puiser l'eau du sol. Regarde autour de toi. Abreuve-toi du monde qui t'entoure. Laisse-toi bercer par le murmure de l'eau, le chant de la rivière ponctué du gazouillis des oiseaux, la poule qui picore tes fruits écrasés au sol, l'herbe encore vivace à tes pieds. Respire le parfum suave et délicat qu'exhalent les fleurs du jardin. Tu es vieux, mais tu dois vivre encore. Amener jusqu'à l'âge adulte toutes ces jeunes pousses issues de tes graines ou de boutures que l'on a fait de tes branches. Regarde comme elles sont fringantes maintenant, tout ça grâce à toi. Accroche-toi aux branches. L'été, profite de cette brise de l'air qui te ravigote un peu, du ciel bleu au-dessus de ta tête. Résiste à la chaleur jusqu'à la tombée de la nuit. Tu reprendras des forces à la fraîcheur du soir, tu t'abreuveras de la rosée du matin. Tes feuilles, en automne, prendront encore des teintes chamoisées. Tu te revêtiras alors d'une parure dorée. Le lierre, en hiver, te protégera de ta nudité. L'éveil du printemps suivra. Rêve comme moi. Tu aurais peut-être aimé être un arbre à feuilles persistantes, un épicéa plein d'aiguilles, un baobab charnu, un palmier dans le désert. Eh bien, rêve. Remémère-toi tous les bons moments que tu as vécus, quand les oiseaux venaient nicher dans tes branches, que les enfants venaient faire la ronde autour de toi, grimper à tes branches pour voler tes fruits bien mûrs. Tu entendais le gazouillis des oiseaux, le rire des enfants et les conversations des adultes venus chercher l'ombre de tes branches. On te courtisait comme un roi, on t'aimait. Fais comme moi, vis de tes souvenirs heureux. On t'a aimé, on t'aimera encore, même si tu ne donnes plus l'ombre souhaitée. Tu as bien vécu, donné de beaux fruits, de belles fleurs blanches qui embaumaient. Regarde-moi, je suis comme toi, je m'accroche à la vie. Nous avons été, nous ne pouvons plus être. Bientôt, tu entreras dans la postérité. Ton aspect tortueux intéressera nombre de peintres et d'artistes. On va te dessiner, te coloriser, te sculpter. En un mot, te redonner vie autrement. Tu seras encore courtisé et aimé.
Je m'appelle Germaine. Et j'ai intitulé le texte « Échange de regards ». Si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe parce que j'ai une petite voix. Combien d'échanges de regards entre une infirmière et les malades. Les situations peuvent être drôles. Ce sont alors de grands éclats de rire. À d'autres moments, ce sera plus dramatique. J'ai noté que plus la mort était proche, plus les regards se faisaient profonds, comme s'ils se cherchaient. C'est une communication de regard à regard, d'âme à âme. L'échange de regards se fait sur l'essentiel, du domaine de l'invisible. C'est un échange de ressentis entre le corps de l'infirmière et celui du malade. C'est une perception de pulsation, comme si les cœurs battaient ensemble au même rythme. La parole a peu de place à ce moment-là. Elle se fait brève. Elle se fait chuchotement, douceur, souffle subtil et léger. Le toucher a peu de place et pourrait être une agression. L'autre sait qu'il va mourir et moi, infirmière, je ne dois pas le retenir, je dois le laisser partir. À l'approche de la mort, il peut ne plus y avoir d'échange de regards, ouverts l'un sur l'autre. Mais cet échange continue, au-delà de la fermeture des paupières, comme un signe d'acquiescement à ce qui est, comme un signe d'accomplissement d'une vie. L'échange de regards laisse place à la présence de l'autre. Se sentir impuissant, mais être là.
Je vais vous lire le texte de Juliette, qui est ici nonchalamment allongée. C'est une créature d'eau, de sève et de résine, de tanins et d'écorce. Arbre aux multiples embranchements, réseau routier des fourmis, balcon d'opéra pour les oiseaux, l'arbre accueille la diversité. Il porte en équilibre tous les âges de son espèce au creux de ses branches et dans la toile invisible qu'il tisse autour de lui. Toile reliant toutes ses parties en une belle dentelle ajourée qui forme des vides et des pleins cousus au fil des années. Ses feuilles, au bord dentelé, sont comme de petites scies qui un jour fendent la toile pour rejoindre le sol. Affranchis de leur support, décolorées, un peu froissées, elles tombent comme une caresse, se couchent au sol et ne se relèvent plus. Légères pourtant, ce sont elles qui lestent la toile, empêchant que l'arbre ne décolle, ivre de lui-même, sous l'impulsion d'une bouffée de sève. Les fruits se développent à l'aisselle des feuilles. L'arbre leur offre une balançoire, un trampoline, et les fruits s'amusent un peu, ça fait dong-dong, et la toile les laisse jouer tout en les contenant. Certains font le grand saut, ils se jettent sur le sol de tout leur poids, y dessinant des cratères. Les fruits sérieux, bien accrochés, perpétueront l'espèce en donnant de belles fleurs, de belles graines, et peut-être des fruits immatures qui se jetteront au sol. Les fruits immatures ne sont pas éjectés de la toile. Ils explosent de toute leur vie dans la terre, saluent les ancêtres au passage, se font souterrains, puis minéraux, pour remonter la racine de l'arbre, fil de chêne entrecroisant la trame.
Les arbres parlent. Tous les enfants le savent. Eux qui échangent des messes basses avec les êtres, avec tous les êtres qui les entourent. Puis ils oublient. Ils désapprennent ce langage pour apprendre le nôtre. Il a fallu des années de recherche aux scientifiques pour rattraper cet oubli et mettre en évidence ce que tous les bambins savent, les arbres communiquent entre eux. Lorsqu'un acacia longifolia est agressé par une chèvre trop vorace, il émet des composés organiques volatiles qui, portés par le vent, sont captés par ses congénères à des distances parfois très éloignées. Ainsi prévenus, ceux-ci vont synthétiser des tanins d'un goût tellement exécrable que les chèvres s'en souviendront longtemps. C'est là, disaient les scientifiques, l'illustration d'un mécanisme purement utilitaire élaboré par sélection naturelle au cours des millénaires de confrontation entre les arbres et les chèvres. Déterminisme des gènes triés par le hasard. Rien de pensé là-dedans. Foutaise, petit bout de la lorgnette. Dès que les phytosociologues, puis les phytoéthologues et les phytolinguistes se sont penchés sur la question, ils ont été de surprise en surprise. Deux grandes avancées ont été réalisées lorsqu'on s'était attaché à répertorier les différentes catégories de terpènes produits par les acacias longifolia et les comparer avec les émissions d'autres espèces végétales. Le nombre de molécules échangées et la variation de leurs combinaisons se sont avérées trop considérables pour justifier une simple fonction utilitaire. Certains terpènes et autres composés émis aussi bien par le pin douglas que par le chêne pubescent n'ont apparemment aucun rôle déterminé. Pourtant, chez ces espèces, les stomates, sorte de valve qui régule les échanges gazeux chez les végétaux, s'ouvrent goulûment pour s'enivrer de ces composés. Les phytosociologues ont dû se rendre à l'évidence. Les arbres échangent entre eux, et pas seulement entre congénères, mais aussi d'une espèce à l'autre, et ceci même lorsqu'ils n'ont guère de messages urgents à transmettre. Découverte essentielle que l'on doit au professeur Labuche de l'Université de Montréal, les arbres papotent, et ça leur fait du bien. En analysant les effluves aromatiques émises par une population de genévriers communs, Juniperis communis, les chercheurs ont été frappés par les séquences alternant radicaux benzoïles et radicaux hydroxydes. Ces séquences obéissent strictement aux règles de la prosodie grecque classique, alternance de brèves et de longues, d'iambes et de tranchées. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence que le langage chimique des arbres avait avant tout une fonction poétique. Des progrès décisifs ont été réalisés et présentés lors du 12e congrès de dendrosémiotique de Locarno. Une équipe de chercheurs de l'Université de Valladolid a réussi à capter l'ensemble des émissions gazeuses d'une population de figuiers communs, Ficus carica, et d'en faire analyser la succession par une intelligence artificielle. Par une méthode analytico-comparative qui serait trop long d'expliquer ici, ils ont réussi à transcrire ce message olfactif en langue humaine, c'est-à-dire, hélas, en anglais. Je vous en livre ici la version française. À feuilles déployées, je nous figons figame. Nous, je entendais les effluves sucrés, présence d'autres figuiers. Salut, arbres congénères de toutes essences. Je buvons boirais ce soleil bien gouléant. Frères insectes, cette figue est pour vous. Entendez-vous son odeur ? En phéromone bémol majeur, j'ai composé et composeront cette ritournelle pour faire tourner la tête des guêpes goulues, folles de mes faux fruits. Par mes racines circulent impulsions électriques et sels minéraux, umami de la terre, vieilles chansons des arbres qui mourront il y a longtemps après leur mort. À l'œuvre déjà, les êtres myriades qui suçaient déglutiront innervent mes feuilles et mes branches. Du vent messager, nous accueillons les composés volatiles, poèmes d'ifs, poèmes de sapin, poèmes de poirier, pas de danger. je nous avons proclamé, proclamerai, ma notre existence de filier follement vivant au vent, à la terre, bonheur d'exister ici, ailleurs, plénitude arborée, le monde est un filier, nous l'avons créé à notre image.
Et c'est avec ce pseudo compte-rendu scientifique intégrant la traduction du langage olfactif des arbres en langue humaine, écrit et lu par Rémi Bloch, fidèle ami des ateliers, que nous prenons aujourd'hui congé. Mais nous reviendrons au terrain des possibles car le temps compté de l'émission m'a obligé à remettre les derniers textes lus à une prochaine émission. Que leurs autrices ne m'en veuillent pas, telle est la dure loi du temps en régime humain du capitalocène. Au mois prochain, chers auditorices, et d'ici là, écoutez bien ce que disent les arbres quand vous vous glissez sous leurs branches et les fleurs qui vous enivrent de leur parfum. Mais quelle folle parole provoque cette ivresse!
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Sorry for my mistakes. I am taking.